Frères et sœurs, les amis, j'aimerais m'arrêter en ce 29e dimanche du temps ordinaire sur la deuxième lecture, cette première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les écrits de saint Paul sont antérieurs aux évangiles. Donc on peut considérer que les lettres de saint Paul sont comme une première annonce chrétienne, un premier récit chrétien. Alors, Paul arrive en Macédoine, vous vous souvenez, c'est au travers du livre des Actes des Apôtres que nous apprenons que Paul a une vision d'un Macédonien qui lui suppliait de venir chez eux. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Et saint Luc, à la suite de cette vision, va immédiatement partir annoncer la bonne nouvelle à Thessalonique. Donc il arrive sur les côtes grecques, alors je passe sur toutes les mésaventures qu'il a pu avoir, parce que chaque fois qu'il était reçu ou accueilli, tout au moins dans ces communautés, fussent-elles des communautés très restreintes, il n'était pas toujours bien accueilli, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque, saint Paul, il faut imaginer le personnage, c'est un peu un brut de coffre, si je puis dire. Il ne se gêne pas pour annoncer et expliquer que le Messie devait souffrir, ressusciter les morts, etc. Alors, bien sûr, en entendant ce discours, certains juifs se laissent convaincre, mais d'autres ne sont pas du tout contents. Et Paul va être obligé de s'éloigner de cette ville de Thessalonique. Il est donc inquiet, et voilà pourquoi, apprenant grâce à ses compagnons Silas et Timothée, qui l'accompagnaient dans ses missions, il apprend que ça se passe pour finir pas si mal, et il va donc adresser avec une certaine solennité, comme nous pouvons le lire, « Nous, Paul, Sylvain, ce qui est l'autre nom de Silas, et Timothée, nous vous adressons à vous, l'église de Thessalonique, etc. » Ça peut paraître un petit peu pompeux, mais ce côté solennel transpire, si je puis dire, la satisfaction de Paul, qui était assez inquiet au sujet de cette communauté, comme toutes les autres communautés qu'il a pu vivre. Et il adresse avec cette expression l'Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Au-delà du côté peut-être un petit peu formel, se dégage de la part de Paul un grand respect pour ces communautés chrétiennes. Et c'est ça qui motive certainement l'action de grâce et peut-être la jubilation de saint Paul. Oui, nous l'avons entendu, hein, nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été simple parole, mais puissance, action de l'Esprit-Saint et certitude absolue. Enfin, les mots sont assez forts et mériteraient peut-être d'être pris les uns après les autres. On voit bien que le travail de Paul, c'est annoncer l'Évangile, qui n'a pas simplement été une parole, j'allais dire une lecture toute simple de l'Évangile, mais par sa prédication, il a su en dégager une puissance. Et cette puissance, elle a un moteur premier, qui est l'action de l'Esprit-Saint, pour graver le plus possible dans le cœur de ses auditeurs une certitude de la plus forte possible. Mais, et c'est le deuxième et dernier point de notre méditation, ces quelques lignes contiennent déjà de fortes affirmations théologiques. On peut en noter au moins trois. Premièrement, ce texte est trinitaire, hein, même si le mot trinité n'est pas du tout employé. On voit bien que les trois personnes de la Trinité sont annoncées. L'Église de Thessalonique est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec vous et l'Esprit Saint arrive au dernier verset. Je recherche le texte. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous, pas des simples paroles, mais puissance et action de l'Esprit Saint. Donc, l'affirmation déjà de la Trinité, même si elle n'est pas nommée par ce nom Trinité. Jésus est donc appelé Seigneur, on sait que c'est un titre réservé à Dieu dans l'Ancien Testament, et l'action de grâce est adressée aux trois personnes. Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon, etc. Nous l'avons lu, je ne m'attarde pas là-dessus. Deuxième point, c'est à noter sur le plan théologique, c'est l'action de l'Esprit Saint qui inspire et permet l'action des croyants. Et au passage, nous avons là une définition des trois vertus théologales qui sont données aussi. Vous voyez, dans quelques versets, il y a vraiment de la nourriture théologique. La foi est nommée, elle est synonyme d'action, l'espérance elle est synonyme de fermeté, la charité, d'un engagement concret, c'est-à-dire ses côtés missionnaires. Donc, l'autre point théologique est... et de nous faire rappeler que saint Paul a parfaitement conscience que dans sa prédication, ce n'est pas tellement lui qui agit, c'est l'Esprit Saint qui agit en plénitude. Ça me semble aussi important à noter, car c'est en définitive l'Esprit qui habite la parole de Paul, qui habite bien entendu l'ensemble de l'Écriture, mais qui nous fait dire que l'Esprit Saint est celui auquel, je me permets de vous rappeler, nous faisons si peu référence, mais qui est à l'action en tant que croyants que nous sommes. Dans la mesure où nous avons une disponibilité d'écoute et d'accueil de la parole de Dieu qui a pour but de nous transformer, c'est-à-dire de nous convertir. Et tout cela, nous le devons à l'Esprit Saint. Alors, une fois de plus, je rappelle un point de catéchisme pour terminer, que l'Esprit Saint est en action concrète ici et maintenant lorsque nous célébrons l'Eucharistie en imposant les mains sur le pain et le vin. Le prêtre fait appel à l'Esprit Saint, c'est pas lui qui consacre, c'est le Christ au travers de sa personne dans l'Esprit Saint qu'il nous a donné en plénitude. Amen.